c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Pour cette spéciale méchant, je vais vous parler de Vilain, le jeu de cartes, un jeu de Léo Colovini chez Ravensburger, alors qui n'a rien à voir avec Villainous, hein, du même éditeur, et pourtant on est toujours avec Les Méchants de Disney. Un jeu qui va s'inspirer du Uno, chaque carte jouée doit correspondre à la couleur ou au numéro de la carte précédente jouée. Le jeu des vilains reprend le jeu sorti en Allemagne sous le nom de Hull Dodge Momo, avec la licence Disney en plus. Alors les cartes sont numérotées de 1 à 6 et se déclinent en 6 couleurs différentes avec un vilain de Disney comme Scar dans Le Roi Lion, le Capitaine Crochet dans Peter Pan, Jafar dans Aladdin ou encore Maléfique, Cruella et Ursula. Il existe également 2 cartes spéciales par méchant qui peuvent être utilisées pour pimenter le jeu, je vous laisserai découvrir avec des pouvoirs. Alors pour la mise en place, eh bien vous mélangez les cartes et formez une seule pioche avec votre méchant face cachée, héros visible. Hein. En gros, si vous avez pris Jafar, le héros, c'est Aladdin. Piochez tous une carte et vous la posez face visible. C'est la première carte de votre pile personnelle. Ensuite, vous piochez 4 cartes pour faire votre main. Alors à votre tour, vous devez jouer une carte de votre main, oui. Et pour jouer une carte, elle doit correspondre à la couleur ou au numéro d'une carte devant vous ou d'une pile de votre voisin. Car contrairement au Uno, les joueurs ne se débarrassent pas des cartes dans une pile commune, mais dans leur propre pile individuelle, et les numéros de chaque carte et sa valeur en points à la fin de la partie. En revanche, les joueurs peuvent, et même doivent jouer des cartes sur les piles de score de leurs adversaires. Oui, car dans les vilains, vous ne pouvez pas jouer une carte sur votre propre pile, si cette même carte peut être jouée sur la pile d'un voisin. Ainsi, lorsque vous choisissez quelle carte jouer, vous devez être prudent. Vous jouez un 2 bleu parce que sur votre pile, votre carte est bleue. Oui, mais votre voisin a un 2 vert. Dans ce cas, vous devez obligatoirement jouer votre 2 bleu sur la pile de votre voisin. Vous avez toujours la possibilité de jouer une carte face cachée sur votre propre pile en dévoilant un héros pour repartir de zéro. Cela a quelques avantages en plus de repartir à zéro, parce que ça vous évite d'avoir à donner de gros points à vos adversaires, et cela empêche les adversaires de jouer avec votre pile de score. Quand vos adversaires ne peuvent pas réclamer la carte que vous voulez jouer, vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre votre propre couleur ou numéro. Mais attention, tous les héros que vous avez dans votre pile à la fin de la manche vont vous faire perdre des points. Exemple, vous avez 5 héros. Vous serez obligé d'enlever tous les vilains avec le numéro 5 dans votre pile pour le décompte des points. Vous en avez qu'un, vous enlevez les cartes de valeur 1. Les cartes valeurs vont de 1 à 6, alors si j'ai 9 héros dans ma pile, je retire quoi? Vous retirez les 6 et les 3 pour atteindre 9. C'est pas cool, hein, mais c'est bien de jouer de héros comme ça, on peut repartir de 0, mais faut bien réfléchir avant quand même. Hein. Le fait que vous ne pouvez pas jouer sur votre pile une carte que vous pouvez jouer sur celui d'un voisin est vraiment la seule règle que vous devez avoir en mémoire. Le reste est assez standard pour quiconque a joué à ce style de jeu de cartes. Alors au cours du jeu, c'est à vous de décider combien vous devez risquer. Les risques et les conséquences sont bien définis. Si vous donnez ce 6 à votre adversaire, vous l'aidez à gagner 6 points. Mais si vous jouez un héros face cachée, vous pourriez augmenter le nombre de points que vous allez perdre en fin de partie. De toute façon, il faudra faire des choix et ce n'est pas si évident de ça, surtout à la fin quand il ne vous reste que quelques cartes en main. La partie s'arrête quand plus personne n'a de carte en main. Vilain, un jeu malin où il faudra bien réfléchir quelle carte jouer et où la poser. Bien entendu, vous n'avez pas le droit au cours de la partie de compter vos héros posés, ça serait bien trop facile. Vous êtes fan de Disney? Un petit jeu de cartes bien sympathique à mettre dans votre valise. Et c'est donc chez Ravensburger. On continue de parler de méchants avec Vianney du magasin Terre de Jeux à Rennes.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et la thématique du jour, c'est les méchants. Et on va retrouver un gentil, Vianney, du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous, ou un gentil méchant.
Ou un gentil méchant. Alors tu vas nous parler d'un jeu que je vais te laisser prononcer.
Ouais, merci de m'avoir fait cette thématique, ça me permet de parler d'un jeu qui m'est vraiment cher, et je reviendrai après.
Ouais.
Ça s'appelle Betrayal at House on the Hill. C'est fait par un collectif d'auteurs américains, je vais pas tous les citer, ils sont très nombreux à avoir travaillé dessus, notamment sur les scénarios, les nombreux scénarios du jeu.
D'accord.
Entre autres, on retrouve Rob Davio, qui est très connu aujourd'hui pour le système de jeu Legacy.
Mm-hmm.
Et c'est un très vieux jeu, puisque ça date du début des années 2000.
D'accord,
donc c'est un jeu qui a pas mal d'années, mais qui a énormément traîné pour voir une version française. On a vu la première version française arriver, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 ans.
D'accord.
Donc c'est un jeu qui est sorti avec quasiment 15 ans de retard sur le marché français.
Ah ouais.
Donc c'est une histoire assez rigolote et qui pourtant reste un jeu pour plein d'aspects et on y reviendra encore, très moderne à mon sens, pour un jeu des années 2000. C'est même totalement fou, je pense que ça à l'époque ça a retourné le petit monde du jeu de société. Donc Betrayal at House on the Hill, moi d'abord, je vais raconter mon histoire avec ce jeu, parce que je pense que si j'ai joué à ce jeu, et ça fait que je suis à la radio aujourd'hui. C'est le premier jeu moderne que j'ai pu essayer, qui m'a vraiment totalement retourné.
D'accord.
J'avais joué à plein de jeux avant, Jungle Speed et compagnie,
ouais.
les petits jeux dits familiaux, mais j'avais jamais fait trop de jeux de plateau. Et Betrayal, ça a été vraiment un coup de cœur pour ce jeu-là, qui à l'époque était en anglais, hein, donc on jouait tout en VO, quoi.
Ouais.
C'est un jeu de plateau, du coup, assez particulier. C'est en gros, le pitch, il est très simple, hein. Betrayal House on the Hill, ça veut dire trahison dans la maison sur la colline. Donc, c'est une ambiance très série Z. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec Scooby-Doo.
Oui.
Où, en gros, on joue une petite équipe de lycéens et de profs qui ont décidé d'aller voir cette fameuse maison hantée qu'il y a aux États-Unis, là-haut, sur la colline. Ils ont décidé de se rendre dedans. C'est un jeu éminemment narratif, hein, où il y a beaucoup de hasard et où le plaisir de jeu vient des événements aléatoires et de tout ce qui va se passer. Donc c'est pas un jeu où il faut aimer la stratégie, parce que sinon tu vas totalement passer à côté du jeu.
D'accord.
Et donc dans Betrayal, on décide de rentrer dans cette maison. Comment ça se présente ? C'est un système de tuiles qui vont représenter les différentes pièces du manoir. Et en fait, on va explorer ce manoir petit à petit. En essayant de découvrir ce qui se cache dedans.
Okay.
Donc au début, tout simplement, on est en totale coopération, on est des copains, on est venus là et puis on explore. Et il va se passer plein de trucs bizarres, il va y avoir de la brume qui va sortir des murs, on va peut-être tomber sur des squelettes, des cadavres, des choses comme ça, c'est une ambiance un peu bloque série Z.
Ouais.
Et on va trouver des objets, devenir plus fort, c'est un petit côté jeu de rôle où on a des caractéristiques comme la force, l'intelligence, machin, qui vont monter au fur et à mesure. Et puis va arriver le fameux truc très original du jeu, on va finalement découvrir le mystère qui se cache dans cette maison.
Mmh.
Il y en a 50 de différents dans la boîte. Il y a 50 scénarios.
D'accord.
Qui sont déclenchés de manière aléatoire. Et on va découvrir, du coup, quel est le mystère. Je vais pas spoiler, mais le mystère, c'est du genre, on pourrait imaginer, tiens, on a découvert qu'en fait, la maison, c'est la maison de Dracula.
Mmh.
Ah bah, il y a un vampire qui est dans la baraque. Et à ce moment-là, en fait, cette césure dans le jeu va créer quelque chose. On va se retrouver dans 90% des cas avec un des joueurs qui est rentré dans la maison, qui est en fait l'hôte de cette maison.
D'accord.
Et qui va jouer contre tous les autres.
Okay.
Et donc on passe d'un coopératif à un jeu où finalement il y en a un qui essaye de gagner et tous les autres qui essayent de le contrer. Donc ça crée des petites ambiances assez rigolotes, on ne sait jamais trop qui va se retourner à quel moment. Et ce qui est très chouette, c'est qu'à ce moment-là, les joueurs vont prendre un temps, arrêter de jouer et s'instruire sur des règles qui sont propres au scénario. C'est-à-dire que dans le cas de Dracula va s'isoler et va lire les règles qui sont propres au fait qu'il est Dracula.
D'accord.
Donc quel est son but du jeu ? Quels sont ses pouvoirs spéciaux, les règles spéciales qui l'affectent ? Et les joueurs en face, les héros, comme on les appelle, les survivants, vont essayer eux aussi de trouver une technique pour le battre et donc vont avoir leur but du jeu, leurs règles spéciales. Sauf que ces deux parties-là ne sont pas connues des adversaires. C'est-à-dire que les pouvoirs de Dracula et le but du jeu de Dracula, les héros ne le connaissent pas et vice-versa. Et ça va créer du coup des ambiances de jeu qui n'existent à mon sens sur aucun autre jeu de plateau où parfois un joueur va faire quelque chose. Et on va se dire, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il jette des dés? Pourquoi est-ce que là, il nous dit qu'on prend des dégâts? Pourquoi est-ce que là, il y a une nouvelle pièce qui vient d'apparaître dans le manoir? Pourquoi est-ce qu'il a l'air de chercher des objets? Ou pourquoi est-ce qu'il a l'air de se promener alors qu'il nous attaque pas? Etc. Et donc, on va être, en fait, très immergé, encore une fois, dans le thème et la narration.
Ouais.
On va faire des théories, aussi fumeuses qu'elles soient, mais qui jouent toujours sur les codes de ce genre de film ou de ce genre de littérature. Ou par exemple, on va dire, attends, c'est un vampire, peut-être que lui, il peut pas aller dans les pièces où il y a des fenêtres parce qu'il y aurait de la lumière, peut-être que lui, il va pouvoir se transformer en chauve-souris, peut-être que s'il nous tape, il va boire notre sang et donc récupérer des points de vie. On va faire plein de théories comme ça, et c'est un des gros plaisirs du jeu. Et donc, le jeu se renouvelle immensément puisque les 50 scénarios sont très différents, il y a des ambiances totalement délirantes à chaque fois. C'est hyper intéressant à jouer. Il a des défauts parce que c'est un jeu des années 2000, donc forcément c'est un game design qui est ancien, les règles sont un peu chiantes à lire, il y a des lourdeurs qui sont à mon sens inutiles, mais si on passe ces petits défauts d'accessibilité, le jeu est vraiment un régal à jouer. Moi c'est un jeu que comme je maîtrise depuis pas mal de temps, j'explique même pas les règles aux gens, je leur dis vas-y joue, fais ce que t'as envie, je vais t'expliquer comment ça marche au fur et à mesure.
Ouais.
C'est un jeu qui est très facile à lancer quand quelqu'un connaît les règles autour de la table. Et c'est véritablement une tuerie. Enfin voilà, moi j'en ai fait beaucoup de parties, j'aime énormément ce jeu. Et il a cette petite fraîcheur, ce truc que les autres n'ont pas, d'avoir une surprise liée à ce que font les autres joueurs et de découvrir des règles et des pouvoirs des autres au fur et à mesure d'une partie. Donc c'était déjà un peu
les
balbutiements du Legacy,
ouais.
Quoi.
Ah ben quand tu en parles, là, on a l'impression que c'est un jeu récent, quoi.
C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, véritablement. Parce que du coup, j'y ai rejoué, évidemment, quand il est ressorti en français. Je me suis dit, tiens,
il est ressorti quand, du coup, en France ?
Il y a 3 ans, je crois.
Et il est toujours, c'est toujours en vente ou c'est...
Oui, c'est même, alors c'est même l'actu du moment, en fait, c'est qu'il y a quelques mois vient de sortir une troisième édition.
D'accord.
Que j'ai pas encore essayé, parce que le jeu a connu déjà deux éditions. En français, c'était la deuxième qui était sortie, et la première n'est jamais sortie en français. Et la troisième édition est légèrement différente, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Il y a des petits changements, c'est 50 autres scénarios. Donc il est certain que je l'essaierai à un moment, puisque du coup j'ai plein de choses à découvrir et ça va beaucoup m'amuser. Mais notamment, une petite différence, c'est que avant de rentrer dans le manoir, on a déjà un pitch du scénario qu'on va vivre. Avant, on le découvrait véritablement en plein milieu de partie.
Ouais.
Le début était donc toujours le même, quoi. On se promenait dans un manoir qui change évidemment à chaque fois, mais on n'avait pas de scénar. Et là, avant de rentrer, on va dire, tiens, il paraît que peut-être il y a un vampire. Et du coup, on va voir la maison de ce vampire. Mais ce qui est drôle, c'est que, enfin, moi, j'imagine, et connaissant le jeu, que le pitch peut être, en fait, comment dire, mensonger, ou en tout cas t'amener à penser des trucs qui vont pas être la vérité qu'il y aura derrière, quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment très très intéressant et c'est ouais pour moi c'est une sensation de jeu qui est vraiment que je regrette même de pas retrouver plus souvent ce petit principe de surprise et de découverte et de se laisser porter par un scénario qui t'amène à vraiment faire des théories fumeuses et puis ambiance série Z donc on se marre autour de la table en général c'est pas sérieux pour un sou il y a un scénario comme ça où en gros c'est un bal des monstres on arrive costumé en monstre enfin voilà
ouais.
c'est du grand délire c'est excellent et
ouais,
il y a une version qui va sortir dans peu de temps normalement.
Ah d'accord.
Qui sera la version Scooby-Doo.
Ah c'est pour ça que tu me parlais de Scooby-Doo, je ne comprenais pas.
Et ben même pas, parce que figure-toi que ça fait 10 ans que j'en parle en faisant le parallèle avec Scooby-Doo, parce qu'il me semble évident au niveau du thème,
ouais.
Parce que c'est vraiment le même délire, quoi. T'as ta petite équipe qui débarque dans un endroit où il y a des monstres et des fantômes, dans une ambiance un peu glauque mais mignonne, et là ils vont adapter le truc avec la licence Scooby-Doo, et ils vont faire un Beach Royale.
D'accord, ah ouais, donc ça peut être sympa aussi ça, hein.
Je pense que par contre, ce qui va être chouette, c'est que ce que j'espère moi, pour l'instant évidemment, je connais rien de cette version-là. Ce que j'espère moi, c'est que la version sera travaillée pour être beaucoup plus accessible et que du coup, elle permettra peut-être d'embarquer des jeunes enfants dedans, parce que l'univers de Scooby-Doo permet, je trouve, de faire passer la pilule d'une manière hyper simple avec un graphisme cartoon, des trucs décalés.
C'est ça.
Donc ça promet pas mal.
Parce que quand j'ai dit qu'on allait faire les méchants et que moi j'étais plutôt dans les vilains de chez Disney, toi tu me sors un truc, je me dis mais c'est complètement l'opposé.
Et ben non, pas du tout, c'est clairement, pour moi c'est clairement le thème méchant.
Ouais, méchant,
c'est
ouais.
Ça, c'est le thème série Z, c'était les zombies, c'est ça, ouais. Les ouais. Vampires, tout ça. Donc il y a tout ça dedans, évidemment, à tous les codes sur les 50 scénars, tu penses bien que tous les codes sont... vachement fait, quoi. Il y a tout, il y a vraiment tout. J'ai vu toutes sortes de monstres, des trucs totalement improbables où tu fais, ah putain, ils ont même pensé à faire ça. C'est vraiment, voilà, on est en plein dans le thème des méchants, quoi.
Bah, super. Merci beaucoup, Vianney. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Surprise, hein, je ne sais pas encore. À jeudi, salut.
Salut Mathieu, salut à tous et tous.